statue.
L'actualité tout autour de la Méditerranée.
1538, Méditerranée. Pollution,
éducation,
santé,
Algérie, Maroc, Tunisie,
travail,
migration,
amour,
Liban, Syrie,
Espagne, Grèce, Croatie. 1538, des clés pour comprendre et agir
en Méditerranée. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de 1538 Méditerranée sur les ondes de Radio Grenouille. L'occasion de tourner une nouvelle fois notre regard du côté de la mer en allant à la découverte de ce qui se passe au Maghreb, mais aussi au Moyen-Orient et chez nos voisins d'Europe du Sud. Au micro de cette demi-heure, Hélène et Mathéo. Mathéo, bonjour.
Bonjour.
Tu es en stage au sein de la rédaction 1538 depuis 2 mois. Et comme chaque mois, nous revenons sur les grands enjeux des sociétés méditerranéennes à travers les dossiers traités sur notre magazine d'information en ligne www.1538méditerranée.com et grâce au travail de nos correspondants partout dans la région. Aujourd'hui, nous faisons un retour sur les états généraux de Marseille qui se sont tenus du 21 au 23 juin dans la ville. 60 collectifs réunis, près de 900 habitants qui ont pris part aux ateliers et forums de discussion durant ces 3 jours. 1538 Méditerranée y était associé pour évoquer la place des médias dans la cité, mais aussi dans le cadre du forum des habitants de la Méditerranée qui réunissait des citoyens engagés en Italie, en France et en Tunisie sur des problématiques communes comme le droit au logement, la gentrification et les conséquences des pollutions industrielles qui touchent toutes les rives de la Méditerranée. Nous accueillons Haldine du collectif Stop Pollution, né à Gabès dans le sud de la Tunisie où une usine de phosphate tue mer et terre. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette usine et sur les mobilisations que vous organisez à Gabès ?
Pour cette usine, c'est le groupe chimique tunisien. Qui était installé à Gabès depuis les années 72. Et après, il y a maintenant toute une zone industrielle immense qui contient plus de 20 autres usines polluantes. Donc, notre problème avec cette usine, c'est pour le traitement de phosphate. Donc, on ramène le phosphate de Gafsa et après, le traitement, c'est à Gabès pour l'extraction de l'acide phosphorique. Ce process-là, il est très polluant, vu que les déchets de phosphate, c'est 5 millions de tonnes de phosphogypse chaque année jetées dans la mer sans aucun traitement. Et ce phosphogypse-là, il contient beaucoup de métaux lourds, comme l'uranium, comme le cadmium, comme le plomb, comme plein d'autres métaux. Et tout ça, donc c'est à la bord de la mer. Avant, Gabès, c'est la pépinière de la Méditerranée pour les petits poissons. Il y avait plus de 360 variétés de poissons, espèces de poissons. Maintenant, il reste moins de 20. Et pour l'oasis de Gabès, c'est la seule oasis maritime dans le côte méditerranéen. Donc maintenant, cette oasis, elle a perdu les sources d'eau parce que cette usine, elle utilise l'eau pour le lavage de phosphate. Avec des quantités énormes. Maintenant, la nappe, elle est en dépression. Et les agriculteurs, ils trouvent plein de difficultés. Il y a le taux de salinité qui est trop élevé. Et il y a le risque de la disparition de l'oasis de Gabès dans 20 ans. Pour les habitants, cette usine-là, elle était installée à la place de quelques quartiers. Donc, c'est l'inverse. Donc, ce qui est connu, que les usines ou les zones industrielles, elles s'installent. Et après, il y a des quartiers qui s'installent pour que les travailleurs soient
proches,
voilà. Mais à Gabès, ils ont enlevé, ils ont viré les habitants et ils ont construit des autres quartiers trop loin. Et ils ont obligé même les habitants de payer les nouveaux
logements.
Et ils ont dit que ce sont les réfugiés. Donc, c'est le nom...
Qu'on attribue à ces habitants, réfugiés ?
Les réfugiés, oui.
Et pourquoi ils les ont décalés, du coup ? C'est des questions de santé ou pas du tout ?
Non, parce que pour l'État, c'est le seul endroit pour que l'État est propriétaire de terrain. Donc, Donc, on a déplacé les habitants. Ils ont laissé les 3 quartiers voisins à quelques mètres, c'est à 50 mètres, par exemple, le Chat Salem, les habitants, c'est tout proche de cette usine très polluante avec les gaz qui dépassent toutes les normes avec 5 fois, 10 fois les normes parfois de, pour la CO2, par exemple, dioxyde de soufre, l'NOx, l'NH3, l'ammoniac, c'est, qui est interdit. Donc, et les habitants sont à quelques mètres. Et à chaque fois, il y a des ambulances qui arrivent. À chaque fois, il y a l'alarme comme la guerre. C'est l'alarme lorsqu'il y a la détection de taux élevé de gaz. Il y a des alarmes qui sonnent et les habitants toujours sont... C'est comme un peu de terrorisme, si tu vois.
Oui, donc, c'est un peu une situation de guerre, quoi.
Voilà, et même pendant l'été, les habitants ne peuvent pas aérer les maisons, ne peuvent pas ouvrir les fenêtres parce qu'il y a toujours ces gaz-là. Donc c'est ça la situation, ils sont très pauvres pour acheter des autres terrains dans des autres endroits et les maladies, le cancer. Donc c'est dans chaque ruelle, avec des amis et des journalistes parfois pour voir des gens qui ont des maladies. On casse pas, c'est-à-dire on choisit un ruel et on pose question.
Oui, est-ce on n'a pas de problème à trouver des gens qui sont touchés et malades de face à cette pollution, quoi.
Voilà, d'accord. Donc, et c'est pour cela, donc, cette usine-là, elle a touché toutes les sortes de vie, la nature, les animaux, les gens. Et voilà, donc c'est immense, ce sont des crimes.
Et dans le documentaire que vous avez diffusé dans le cadre des États généraux de Marseille, tu peux rappeler le titre de ce documentaire ?
Le film, il s'appelle « Tout va bien, Lella ».
Qu'est-ce que veut dire « Lella » ?
« Lella », c'est pour les femmes, c'est une expression utilisée en Algérie, au Maroc, en Tunisie, pour le respect pour la femme. Donc on dit « Lella », c'est la femme noble.
Et dans les conséquences face à cette pollution issue de cette usine de phosphate, dans ce documentaire, on voit aussi la situation de la pêche artisanale qui est en grande difficulté et d'énormément de pêcheurs qui ne peuvent plus vivre de la pêche, donc qui rend une situation économique difficile pour un certain nombre de familles.
Oui, avant, c'est tous les pêcheurs, par exemple, de Ranouch et de Chat Salem, sont des agriculteurs et en même temps sont des pêcheurs. Donc parce qu'il y a l'oasis qui touche la mer. Et il met les bateaux dans les parcelles d'oasis. Et maintenant, et parce qu'avant aussi, c'est facile de pêcher. C'est à quelques mètres. Même les enfants, même les gens qui passent par là, ils peuvent pêcher parce qu'il y a plein de poulpes. Il y a le chasse à pied à la main. On fait les va-et-vient et on pêche plein de poulpes. Les pêcheurs ne sont pas obligés de faire 2 ou 3 kilomètres, c'est à 1 kilomètre.
Et aujourd'hui
une demi-journée. Maintenant, tu peux aller jusqu'à peut-être Malte, jusqu'à la Libye, parce que tout le golfe de Gabès, c'est la pépinière, comme on a dit, de poissons. Maintenant, il n'y a rien, il y a des couches énormes, 5 millions de tonnes chaque année de phosphogypse. Il y a l'accumulation de phosphogypse, il a fait des couches qui empêchent les plantes de pousser. Et pour avoir un milieu favorable pour les poissons pour vivre, pour se reproduire, pour mettre les œufs et tout. Donc il n'y a rien maintenant. Et il n'y a que les grands bateaux de pêche.
Oui, les chalutiers.
Les chalutiers pour aller loin.
Et donc les petits pêcheurs artisanaux n'ont plus de ressources. Et vous, donc, à Stop Pollution, qu'est-ce que vous faites exactement, la société civile, les citoyens, et est-ce que vos actions ont permis d'avancer sur ce dossier pour en tout cas réduire ou stopper ces pollutions ?
Pour la mobilisation, donc on parle que après 2011, parce qu'avant 2011, c'est la dictature, c'est partout en Tunisie, on ne peut pas provoquer des sujets comme ça. Et même si, lorsqu'il y a des gens, lorsqu'ils ont essayé, des ingénieurs par exemple, du groupe chimique, qu'ils ont essayé de parler de la situation, voilà. Donc ils ont été virés, et même les syndicats n'ont pas pu le défendre. Après 2011, donc, il y a plein de collectifs, il y a plein des initiatives. Mais le terrain, il est favorable, donc les habitants sont très conscients. Et même les habitants sont mobilisés, par exemple, Chat Salem, ils ont occupé l'usine le 17 janvier, après 3 jours de la révolte populaire, après que Ben Ali a quitté le pays. Donc,
en 2011, ouais. Donc c'était le 17 janvier 2011, après le début de la révolution.
Voilà, tout de suite, donc il y a un contexte national, tout le monde il parle de la développement régional, local, le chômage, mais à Gabès, les gens, ils parlent de la pollution, ils parlent de le droit de l'environnement, à un environnement sain. Voilà, donc après, on a commencé à mobiliser avec une façon plus structurée, plus organisée, et depuis le 5 juin 2012, avec une marche de 3 000 à 4 000 personnes, et on a commencé à faire la pression sur le gouvernement pour le démantèlement des unités. Il y a beaucoup de points de vue. Donc, il y a des gens qui disent, mais le problème social, parce qu'il y a des... Et c'est vrai, parce que tout le modèle économique et le modèle de développement régional, il est basé sur ces activités-là.
Sur ces emplois.
Sur ces emplois. Il y a plein d'autres pays, comme par exemple l'Europe de l'Est, lorsqu'ils ont décidé de démanteler plein d'usines, il y a après des conséquences catastrophiques sur le côté social parce qu'il n'y a pas des alternatives, il n'y a pas un autre modèle de développement pour remplacer tout de suite. Donc il faut aller comme une stratégie.
Oui. Et du coup, à Gabès, comment ça s'est passé exactement?
Donc, il y a ces divisions-là. Il y a l'UGTT, et c'est normal que l'UGTT, elle va défendre.
L'UGTT, c'est...
C'est l'Union Générale de...
C'est le syndicat des travailleurs.
Le syndicat des travailleurs tunisiens. Voilà, on n'a qu'un seul syndicat en Tunisie, ce n'est pas comme des autres pays. Donc, c'est la plus grande syndicat, même avec des rôles très politiques. Et on ne peut pas... Si par exemple l'UGTT elle va s'opposer avec les travailleurs et tout, donc peut-être on peut, c'est pire que la bataille avec l'État. Donc l'UGTT à Gabès, elle soutient les mouvements, mais elle dit que il faut garantir que les droits des travailleurs, le travailleur ne sera pas viré, il faut que la durabilité de travail pour eux. Et donc, en 2017, la décision, elle était le démantèlement des unités polluantes et la création d'une nouvelle zone industrielle avec des normes très sévères de 2019 parce que l'ancienne zone, c'est avec la technologie des années 50. Donc, c'est même toutes les unités sont amorties. Donc, démanteler cette zone et créer une nouvelle zone industrielle loin des habitants, c'est à 50 km. Et comme ça, on peut réduire les dégâts. Voilà, c'est avec le minimum possible, avec le dessalement de l'eau. Et ça, on n'était pas sûr, parce qu'il n'y a pas des garanties. On n'était pas sûr que ce projet est vraiment un vrai projet. Donc, la première partie, c'est le démantèlement de zones. Ça, qu'on a demandé. Mais nous, on défend un principe. On ne peut pas accepter que la pollution peut aller à un autre endroit où des autres habitants et il y a des autres victimes.
Oui, on déplace le problème.
On déplace le problème. Mais
donc finalement,
Depuis 2017 jusqu'à maintenant, le gouvernement, elle n'a pas avancé. Elle fait des discours, par exemple, avec des chiffres de 1,5 milliard d'euros. Que ce projet, elle va coûter, mais ils n'ont pas un plan financier. Par exemple, comment tu vas financer ce projet-là? Est-ce qu'il y a des promesses? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as...
Donc, il n'y a rien.
Jusqu'à maintenant, c'est flou. Donc, c'est dans l'ambiguïté. Donc, il n'y a pas des décisions claires, des pas, par exemple, clairs. Et les habitants de Gabès, dès le début, ils ont été un peu content de ça. Et après, il y a la déception. Et ça, c'est très, très grave parce que peut-être il y a une nouvelle explosion. Parce qu'il y a plusieurs explosions populaires. Donc, les gens qui se révoltent, qui s'occupent, l'usine qui bloque tout. Et on ne sait jamais, peut-être la prochaine période, le gouvernement, avec sa manière de comment elle traite ce sujet-là, peut-être il y a l'explosion populaire dans la prochaine période.
Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et on suivra les péripéties donc de ces centres de pollution qui sont source vraiment de beaucoup de maux pour cette Méditerranée. Et d'ailleurs, c'est pas qu'en Tunisie. Rappelons que juste ici, à Marseille, à 7 km des côtes, à Cassis, l'usine Alteo, qui est basée à Gardanne, rejette des millions de tonnes de boue rouge toxique depuis 50 ans, qui devrait, grâce à la mobilisation citoyenne ces 10 dernières années, devrait stopper le rejet de ces boues rouges le 31 décembre 2019. Mais à nouveau, même en France, nous n'avons pas de garantie, puisque l'industriel, jusqu'à maintenant, a toujours réussi à contourner les lois ou s'arranger avec le gouvernement. Donc là, aujourd'hui, c'est une vraie question qui nous touche tous, parce que ces courants méditerranéens, les phosphates de gabès se retrouvent sur nos plages aussi ici, et les boues rouges, en tout cas, se sont déjà retrouvées à Barcelone. Donc soyons vigilants.
1538, des clés pour comprendre et agir.
1538méditerranée.com. Alors en studio avec nous également Mathéo. Bonjour Mathéo.
Bonjour.
Donc tu es en stage à 1538 au sein de notre rédaction depuis près de 2 mois, où tu mènes des enquêtes et notamment en lien avec la liberté, nos libertés, qui est le titre de notre dossier estival. Donc on va aller interroger sur toutes les rives de la Méditerranée la notion de liberté. Donc la Méditerranée, on inaugure donc ce dossier spécial et on a choisi quelques libertés. Liberté de circuler, liberté de choisir, liberté d'être, de créer, et liberté de la presse et liberté d'expression. La Méditerranée n'est pas une étoile morte, comme l'écrivait Thierry Fabre dans l'Appel de la Méditerranée, lancé en avril à Marseille avec des journalistes de 1538 d'ailleurs, mais des documentaristes, des citoyens aussi, appelés à signer cet appel. On parle ici de mer Méditerranée qui n'est pas condamnée à la violence, à la guerre, à la répression. Elle n'est pas condamnée à devenir un nouveau cimetière marin. Elle n'est pas condamnée à l'immobilisme, à l'effondrement et à l'absence de liberté. Bien au contraire, la liberté de penser et de pouvoir dire ce que l'on pense, liberté de conscience et de pouvoir croire ce que l'on désire croire, liberté d'informer, pouvoir publier ce qui nous semble juste, liberté de créer, de pouvoir inventer des formes nouvelles, liberté de circuler, liberté de pouvoir choisir la mobilité, liberté de vivre et de pouvoir décider des relations entre hommes et femmes, liberté de changer nos modes de vie et de pouvoir prendre toute la mesure de la fragilité de notre écosystème. Vous pourrez retrouver cet appel sur la page Facebook Appel de Marseille pour une Méditerranée libre. Et donc dans ce dossier estival, on revient sur ces libertés. Et toi Mathéo, tu as décidé de traiter la question de l'asile et de la prison. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet ?
Alors ces derniers mois, en fait, je me suis intéressé plus particulièrement à l'accès aux droits des détenus étrangers en France, donc qui représentent à peu près 20% de la population carcérale française. Et dans certaines prisons, comme par exemple la flambant neuve prison parisienne de la Santé, qui aurait ouvert il y a à peu près 4 mois, les étrangers représentent 70% de la population carcérale. Donc je me suis intéressé à ce sujet parce qu'on parle souvent des étrangers qui sont enfermés en centre de rétention administrative, donc c'est les CRA, et on parle très peu souvent, en fait, très rarement, des prisonniers étrangers, c'est-à-dire ceux qui ont commis des délits. Donc ça peut être n'importe quel délit. Moi, quand je suis, en fait, pour faire cette enquête, je suis allé rencontrer donc des intervenants associatifs qui interviennent en prison, des juristes, des avocats qui font partie, par exemple, de l'association l'Observatoire international des prisons, mais aussi des autorités administratives qui contrôlent les prisons, comme le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Donc c'est un sujet qui est très intéressant, puisqu'en fait, on sait qu'en prison, c'est un lieu déjà de privation de liberté, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un lieu où on empêche les personnes d'accéder à leurs droits, et les étrangers sont d'autant plus visés par ces mesures. Et c'est par des biais administratifs notamment. Donc quand je suis allé discuter avec des intervenants, tous m'ont expliqué qu'aujourd'hui, un étranger dans une prison a énormément de difficultés de régulariser sa situation en France, notamment la situation de séjour et la situation de demander un droit d'asile, en fait. Donc, pour ce qui est du séjour, par exemple, un étranger qui a un titre de séjour valide lors de son entrée en détention, donc ce titre de séjour peut périmer lors de sa détention, et il est dans quasiment l'impossibilité de le renouveler du fait que les préfectures refusent de mettre en place, en fait, des protocoles pour régulariser les situations des personnes étrangères. Donc on a des exemples de personnes qui vivent en France depuis plusieurs années, qui ont un titre de séjour valide, qui ont leur vie en France depuis plusieurs années, une femme, des enfants, qui rentrent en détention, leur titre de séjour périme, et ils sont dans l'impossibilité de le renouveler. Qu'est-ce qui se passe à leur sortie ? Leur sortie de détention, à la levée d'écrou, ils sont soit expulsés, puisque pendant leur détention, ils peuvent recevoir une obligation de quitter le territoire, donc une mesure d'éloignement, ou alors ils sont placés dans un centre de rétention administrative, donc les CRA, depuis lesquels on va essayer d'organiser leur expulsion. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la double peine. Donc beaucoup de politiciens réclament le retour à cette double peine, c'est-à-dire la prison pour un délit et la mesure d'expulsion, puisque la situation n'est pas régulière. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas. Il n'y a pas besoin de la remettre à jour.
Et donc, tu dis dans l'article, en tout cas dans le chapeau de l'article, qu'ils ont 48 heures pour faire un recours. Ils ont droit à un recours donc, administratif, devant le tribunal administratif, du coup.
Aujourd'hui, quand un détenu, on lui notifie une obligation de quitter le territoire français, on lui laisse seulement 48 heures, oui, pour faire un recours devant le tribunal. Donc, tous les avocats, tous les juristes nous disent que c'est un recours qui est insurmontable. C'est-à-dire que dans un lieu, dans une prison, il est impossible d'organiser, en tout cas de monter un dossier administratif dans les 48 heures. Donc dans les faits, en fait, plus de la moitié des dossiers sont rejetés pour cause de tardiveté du dépôt.
Et donc, qu'est-ce que en France, est-ce qu'il y a des chiffres sur le nombre de personnes qui, enfin, ou que deviennent ces personnes ? Est-ce qu'il y a des personnes qui se mobilisent, justement ? Est-ce qu'il y a une mobilisation citoyenne pour savoir ce que deviennent ces jeunes, du coup ? Parce qu'il y a les procédures d'expulsion, mais on imagine qu'elles ne sont pas toujours... c'est pas toujours le cas.
Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 78% des sortants de prison étrangers sont expulsés. En fait, il y a très peu de chiffres à ce sujet, mais il y a un rapport parlementaire de 2015 qui rappelle que la police aux frontières est parvenue à éloigner 78% des sortants de prison en 2014. Donc la prison, en fait, c'est le lieu depuis lequel l'éloignement réussit le mieux. En fait, il n'y a aucun lieu en France depuis lequel on arrive à expulser le mieux les étrangers, sauf la prison, en fait. Et en fait, à ce sujet, il y a un juriste qui expliquait aussi au sujet des titres de séjour, que en fait il synthétisait un peu le sujet du séjour des étrangers incarcérés, en expliquant que la question de l'accès au séjour reste largement et volontairement ignorée par les pouvoirs publics, parce qu'en fait ils profitent de l'aubaine que constitue la sanction pénale pour rejeter les demandes. À partir du moment où un étranger va commettre une petite faute, notamment un vol ou trafic de drogue, eh ben, les préfectures vont se dire « Aujourd'hui, cette personne a commis un délit, elle est étrangère, elle ne pourra plus rester en France, on va ignorer toutes ses demandes de régularisation et toutes ses demandes de séjour ou d'asile. »
Oui, ce qui constitue d'ailleurs une atteinte aux droits et aux conventions internationales qui doivent protéger ces personnes qui viennent déjà d'un pays où elles étaient en danger. Et c'est pour ça qu'elles avaient obtenu le droit d'asile ici en France.
Oui, bien sûr.
Merci Mathéo, en tout cas pour tout ton travail, à retrouver dans le prochain dossier à la 1538méditerranée.com.
Les dossiers 1538 Méditerranée.
Donc toutes ces libertés parfois en danger en Méditerranée, il en était question ce week-end au cours des états généraux qui se tenaient alors qu'Emmanuel Macron organisait le 24 juin le sommet des deux rives de la Méditerranée qui réunissait 10 chefs d'État et de la société civile choisie par le gouvernement. Donc nous avons pensé qu'il était essentiel de mettre en débat des questions qui seront peu abordées durant ce sommet. des questions qui préoccupent un grand nombre de citoyens, comme le non-respect du droit maritime par les États européens. Ces derniers criminalisent les opérations de sauvetage de personnes exilées menées par des ONG comme SOS Méditerranée, et ils les renvoient en Libye, pays où ces mêmes personnes, ces exilés, fuient l'enfer. Et ces décisions-là des États européens sont bien loin des obligations internationales de débarquer ces personnes dans un port sûr et qui sont prévues par les conventions dont on est signataire en tant qu'État européen. Il est également question de la liberté de la presse, liberté d'expression, question essentielle dans la région. Et donc nous avons discuté de ces questions à Marseille. Notre rédaction a réuni des journalistes, des chercheurs, des citoyens de différentes nationalités. Et on va retrouver Nina Hubinet, qui était correspondante en Égypte, qui fait le point sur la situation dans ce pays.
On est en plein dans la contre-révolution aujourd'hui en Égypte. Ça veut dire que, que le pays, d'après Reporters sans frontières, est l'une des plus grandes prisons pour les journalistes dans le monde. Aujourd'hui, il y en a en gros une trentaine, ils en dénombrent une trentaine en prison. Mais après, il y a aussi, quand on parle de liberté de la presse, c'est aussi la liberté de conscience tout de suite qui est attaqué ou réprimé. Donc il y a aussi beaucoup de blogueurs ou de gens, simplement de citoyens lambda, qui ont écrit quelque chose sur Facebook ou qui ont dit quelque chose, qui peuvent se retrouver en prison aujourd'hui en Égypte. Donc il y a des exemples précis. Il y a par exemple un journaliste qui s'appelle Ismail Iskanderani qui est en prison aujourd'hui depuis 5 ans. Qui en gros est un chercheur à la base en sciences politiques et journaliste, qui a écrit pas mal pour Orient 21 par exemple en France, et qui est spécialiste du Sinaï, et c'est un des seuls en Égypte qui suit tout ce qui se passe dans le Sinaï depuis la révolution et depuis le retour au pouvoir des militaires en 2013. Dans le Sinaï, il y a une guerre en ce moment. Donc de l'armée égyptienne contre des groupes islamistes armés. Et donc il a été mis en prison, il est inculpé, accusé de faire partie d'une organisation interdite, donc c'est la manière de désigner les frères musulmans aujourd'hui en Égypte. Et donc Ismail Iskanderani, il est accusé de faire partie des frères musulmans, sachant que lui-même est copte, donc est chrétien. Je crois qu'il n'y a pas d'exemple en fait dans l'histoire de chrétiens islamistes, enfin, c'est assez antinomique, quoi. C'est... Voilà. Il a été condamné à 10 ans de prison. Donc, a priori, il y a peu de chances qu'il sorte bientôt. Par contre, il y a un photographe qui est surnommé Shao Kahn, qui a eu comme tort unique, en fait, d'être présent au moment de la dispersion du sit-in de Rabat. Donc, en fait, juste après l'arrivée, le coup d'état des militaires en 2013, il y avait des supporters du président islamiste Mohamed Morsi, qui vient de mourir il y a quelques jours, qui étaient rassemblés sur deux places au Caire et donc qui continuaient à protester contre le coup d'état militaire. Et en fait, le 14 août 2013, l'armée a envoyé des chars, la police, enfin toutes les forces armées, police et militaires, et a dispersé ces deux sit-ins. Et donc, il y a eu entre 800 et 1000 morts en une journée. Donc, c'est le plus grand massacre de l'histoire moderne de l'Égypte, et c'est un des plus grands massacres de l'histoire récente mondiale. Voilà. Et donc Shao Kahn, ce jeune photographe, couvrait ce qui se passait là-bas. Et donc, comme beaucoup de journalistes qui couvraient cet événement, il a été mis en prison et il est resté 5 ans en prison. Il a été libéré, je ne sais plus, il y a quelques semaines. Mais en fait, il est libéré, mais sauf qu'il doit passer toutes ses nuits dans un commissariat. Donc de 18h le soir jusqu'à 6h le matin, il doit dormir dans un commissariat, en fait. Ensuite, on peut aussi citer la fermeture de sites internet. Donc il y a plus de 500 sites internet qui ont été fermés par le pouvoir depuis 2013. Des médias légèrement critiques, enfin plus ou moins critiques, et puis des sites d'ONG, d'ONG de défense des droits de l'homme, qui sont évidemment très ciblés aussi par le pouvoir actuel.
beaucoup de libertés qui sont menacées sur toutes les rives de la Méditerranée, sans exception. Si le sujet des libertés vous intéresse, en tout cas, rendez-vous en ligne sur notre site www.1538mediterranee.com. Des reportages, portraits, entretiens seront publiés tout l'été. Un mot enfin pour vous dire que notre campagne 2019 d'appel aux dons et adhésions se poursuit. Des dons et adhésions qui financent des reportages, les reportages de nos correspondants partout dans les sociétés méditerranéennes. Alors si vous souhaitez soutenir l'aventure d'une information originale et indépendante, rendez-vous sur notre site ou sur la plateforme Helloasso. Vous tapez 1538 Réseau Med. Toutes les infos sont également sur Facebook et sur notre site internet. C'est la fin de cette émission méditerranéenne. Bel été sur Radio Grenouille.
Pollution, éducation, santé,
Algérie, Maroc, Tunisie,
travail,
migration,
amour,
Syrie,
Espagne, Grèce, Croatie. 1538, des clés pour comprendre et agir
en Méditerranée.
Rendez-vous sur 1538mediterranee.com. 1538.